Bonjour, bonjour curieuses et curieux du monde entier et d'Ardèche méridionale, auditeurs et auditrices en vie, ce qui est déjà pas mal. Curieux du monde et des autres, vous êtes dans l'onde curieuse, le magazine des initiatives en Sud-Ardèche, et vous avez bien raison. Aujourd'hui, notre invitée est Agnès Audibert, maire de Beaumont, lauréate il y a 2 semaines à peu près du Grand Prix des maires dans la section énergie et environnement. Elle a été récompensée pour avoir dans son village de 260 habitants créé la première nappe phréatique artificielle d'Europe pour parer à la sécheresse. Bonjour Agnès.
Bonjour.
On voit dans un instant comment ça marche, mais d'abord quelques infos du monde sud-ardéchois. Alors à défaut d'un changement radical de nos modes de vie qui permettrait peut-être d'agir avant que les destructions soient irrémédiables, des initiatives émergent ici et là. Mais toute la difficulté, bien sûr, c'est l'articulation entre ce qui est légal, ce qui est légitime, les modèles de gouvernance, qui décide, combien de temps ça prend, souvent trop long, et surtout le manque de vision. De courage politique, quelquefois, mais pas toujours, on en a la preuve là aujourd'hui, mais dans le même temps, à d'autres échelles, on en a également la preuve, un manque de hauteur, sans se laisser happer par des intérêts minoritaires, enfin, on appelle ça le bien commun, ou disons pour les plus conservateurs, le bien public, c'est ce qui était le bien public. Bref, ce matin, je vois que certaines associations bataillent, essaient d'agir en utilisant les leviers légaux institutionnels. C'est le cas de l'association des Amis de la Bourge, concernant le projet, vous le savez, le projet d'édification d'une super chapelle à Saint-Pierre-de-Colombier et d'un centre d'accueil des pèlerins. Alors je rappelle que depuis un mois presque maintenant, depuis le 6 novembre, une décision du juge des référés, le chantier est suspendu. Il est demandé à la congrégation religieuse, la famille missionnaire, de produire une évaluation du risque que fait courir le projet sur l'espèce florale en question, c'est-à-dire le réséda de Jacquin. Mais pendant ce temps-là, les Amis de la Bourge continuent de demander à la préfète les preuves qui lui ont servi entre le 19 octobre et le 6 novembre pour affirmer que rien ne s'opposait à la reprise du chantier. C'est-à-dire, en fait, en matière de preuves, c'est une évaluation en bonne et due forme, normalement faite par l'ADREAL. L'ADREAL, je rappelle, c'est la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. C'est un service de l'État qui stipule donc qu'il n'y aurait aucun risque. Or, ça semble être un sujet très épineux qui met dans l'embarras les services de l'État, puisque après nombre et nombre de demandes publiques d'avoir cette étude, eh bien, cette étude n'est toujours pas remise. Donc, on s'interroge, est-ce que cette étude existe bel et bien ? Étude sur laquelle normalement la décision de la préfète devrait reposer. Voilà, question en suspens. Autre combat, autre alerte, c'est l'Association nationale pour la biodiversité qui avait alerté les services de l'État concernant le rallye qui s'est tenu le 18 et 19 novembre dernier et qui passait dans le bois de Paillolive, zone protégée, zone Natura 2000. Les services de l'État, en la personne de la sous-préfète de l'Argentière, avaient argué qu'il n'y aurait qu'une incidence légère, ce qui de toute façon constitue déjà un risque d'atteinte suffisamment caractérisé pour imposer à l'organisateur le dépôt d'une demande de dérogation espèce protégée. Mais voilà, le rallye a eu lieu et les dégâts aussi constatés par l'Association nationale de la biodiversité, piétinement de secteurs à enjeu. La station Dorfris Aurelia, qui est une espèce protégée, qui a été donc piétinée. Nombreux accidents de voitures, les voitures de rallye, dont une qui a plongé dans le lit du ruisseau de Fontgraz, au lieu dit Fontaine Méjeanne, où vivent précisément des familles de loutres d'Europe et de castors, espèces protégées. En plus, des milliers de bris de verre et de plastique en tout genre ont été repérés, et puis des épanchements massifs d'huile et d'hydrocarbures dans le lit du cours d'eau, le ruisseau de Fontgraz. Et nous apprenons ce matin, par un communiqué de presse des écologistes de Sud-Ardèche, la suppression de 2 postes en charge de l'animation et du suivi des espaces naturels sensibles et des zones Natura 2000 à la communauté de communes du pays des Vences en Cévennes. Donc cette zone Natura 2000 d'ailleurs qui vient d'être piétinée, en tout cas pendant le rallye donc des 18 et 19 novembre. Donc suppression de postes, de deux postes, postes financés par la région et donc qui ne voient plus là la priorité. Ça pose question. Bref, la prise en compte par les institutions des risques pour l'environnement, la perception des enjeux environnementaux semble quelquefois plus que minorée, ce qui peut constituer un manquement dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde qui demande peut-être un peu moins de ménagement à l'égard d'intérêts économiques et d'accaparement des biens communs par une minorité. Alors bien sûr les enjeux économiques sont essentiels, hein, mais c'est juste une question d'équilibre et de vision du bien commun. Il y a donc des associations, des collectifs d'habitants qui alertent, qui œuvrent d'ailleurs quelquefois de concert avec les représentants publics. Quelquefois ça fonctionne, mais c'est long, ça prend du temps, c'est le jeu de la concertation. Et on lit ce matin dans le Dauphiné Libéré que les gorges de l'Ardèche, alors c'est le titre, hein, les gorges de l'Ardèche s'interrogent sur leur modèle touristique. Eh bien, il est temps. Bon, allez, si on prenait une bouffée d'imaginaire et de culture pour se revigorer l'esprit et l'espoir, quoi de neuf et de sautillant en ce début de semaine ? Eh bien, quelques surprises au cinéma. Ce soir, c'est au cinéma Le Regain du Teil à 20h. C'est le film Surprise en avant-première. C'est un coup de cœur de l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Vous le savez, hein, chaque mois, il y a un petit film surprise qui sort. Et c'est toujours chouette de se laisser surprendre par le choix de personnes bien réelles, de personnes en chair et en os, qui sont en plus de bons conseils et qui ne vont pas forcément flatter vos goûts repérés par des algorithmes qui peut-être vont vous amener vers un film, un univers, un monde vers lequel vous ne seriez jamais allé de vous-même. C'est une forme de risque, quoi. Donc, à tenter pour les joueurs de la vie. Bref, les vivants qui ne se laissent pas scléroser plutôt par les algorithmes. Donc c'est à tenter ce soir au cinéma Le Regain du Teil à 20h. Et même pour ceux qui sont trop loin du Teil à Lussas, là c'est demain à 20h30, idem. Paf, un film en avant-première, un film surprise, coup de cœur de l'équipe de cinéma. Allez, on continue dans le cinéma, mais là, vous savez ce que vous allez voir, c'est à Tueil, demain toujours, à 20h, à la salle de la Vesprade. Et c'est le film Killers of the Flower Moon, le dernier film de Martin Scorsese, que vous avez vu peut-être ? Non ?
Non.
Un film fleuve, c'est un cours d'eau, hein, mais ça c'est une autre histoire. C'est un film fleuve de plus de 2h30 qui est porté par Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone et Robert De Niro. Et c'est un film qui a été adapté d'un bouquin de David Gran, bouquin qui était paru en 2017. Et ça retrace l'enquête sur les meurtres des Indiens Osages dans les années 1920. Et les cinéphiles de Cinémascope, ici à l'antenne, avaient vraiment défendu ce film, Killers of the Flower Moon. Donc c'est à voir demain à la salle de la Vesprade à Tueil. Si on considère que regarder un film ensemble dans une salle de cinéma pour sortir, acquérir une culture commune, vivre un moment avec d'autres habitants de son village, par exemple, si on considère que c'est essentiel, on se rappellera avec émotion que la région a supprimé également en septembre les subventions à la Maison de l'Image qui portait le programme Cinéma au Village et qui proposait des projections itinérantes dans les villages d'Ardèche méridionale. Allez, un dernier ciné pour la route, c'est un ciné-conférence mercredi 6 décembre à 15h au cinéma Les Quinconces de Vals-les-Bains. Et c'est un ciné-conférence qui porte sur l'Arménie du rêve à la réalité, et c'est un film de Nicolas Pernaud. couché au pied du mythique mont Ararat, donc Petit Caucase, l'Arménie regorge de richesses historiques, spirituelles et naturelles inestimables. Je vous lis le pitch. Elle est souvent connue pour son histoire mouvementée, certes, ponctuée de drames, en effet, mais elle est avant tout un pays à la culture millénaire, fascinante, et l'un des berceaux du christianisme, voire le berceau du christianisme, ici dans la sphère au-dessus du Moyen-Orient. L'Arménie du rêve à la réalité, c'est un ciné-conférence qui a lieu donc au cinéma de Quinconce, au cinéma Les Quinconces de Vals-les-Bains, pardon, mercredi à 15h, tarif unique 8,50€ et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et puis pour le moment convivial, y a des boissons, des petites gourmandises qui sont partagées. Et je me dis que c'est un petit peu ironique quand même pour notre président de région, cette séance pour comprendre l'Arménie d'aujourd'hui dans un cadre convivial, quand on sait qu'il apporte publiquement son soutien au peuple arménien et qu'il alerte sur la menace que fait peser l'Azerbaïdjan sur le pays, que ça en devient un combat personnel, eh bien on ne saurait que lui conseiller un petit moment de cinéma convivial partagé pour lancer le débat et s'interroger justement sur l'Arménie d'aujourd'hui. Je me demande quel est le sous-texte politique. Bref, allez, laissons couler, let it flow. We'll be right back. The River de Geoffrey Auriemma, de l'album Beat the Border, qui est déjà sorti en 1993. Ça ne rajeunit pas 30 ans, presque aussi vieux que les alertes sur le climat, un peu plus jeune que ce qui se passe depuis les années 70. Merci, c'est le choix de notre invité, Agnès Audibert. The River, pourquoi donc The River?
Pourquoi? C'est une musique que j'aime beaucoup écouter en marchant le long de la rivière. Ça me parle beaucoup et elle rythme vraiment le pas. C'est très facile de marcher avec cette chanson. Elle a beaucoup de sens pour moi en tout cas.
Elle a beaucoup de sens, oui. Ben, on va en parler justement de ce, déjà de ce pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous avez remporté il y a à peu près 2 semaines de cela, lors du Grand Prix des Mers, le prix dédié à l'environnement et aux énergies pour votre initiative, donc la création de la première nappe phréatique artificielle en Europe. Alors simplement ma première question.
Comment ça marche ?
Oula, dis donc, c'était Jean-Claude Bourré, un petit clin d'œil, hein. il n'est pas venu lors de ce salon du livre ce week-end, il devait venir Jean-Claude Bourré pour nous parler de la porte du temps et des ovnis, mais enfin bon, laissons ça de côté. En tout cas, comment ça marche cette nappe phréatique artificielle, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne?
Alors, nappe phréatique artificielle, c'est le nom qu'on a donné. Mais en fait, son nom véritable, c'est réserve d'eau enterrée pleine de sable. Et ce mot déjà décrit très bien l'installation. Si je décris grossièrement, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, on fait un trou dans le milieu naturel, on met une bâche, on remplit ce trou soit de sable, soit de pouzzolane, comme on a fait à Beaumont. On recouvre avec une bâche, on recouvre avec ce qu'on a sorti du milieu naturel. Donc notre réserve est complètement enterrée, elle disparaît et après on la remplit d'eau et quand on a besoin d'alimenter notre réseau de distribution d'eau potable, de le soutenir en tout cas, et ben voilà, on prélève de l'eau dans cette REPS, nappe phréatique artificielle.
Donc ça c'est une réalisation que vous avez terminée je pense il y a...
En 2020,
un an.
2022.
Ouais, c'est ouais. Ça. Il y a déjà un an, donc qui fonctionne. Il y a déjà eu, notamment dans les moments les plus, où vous manquez d'eau, c'est-à-dire l'été. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette nappe phréatique? Vous avez déjà eu l'occasion?
Oui, on a. Alors, elle était prête. On pouvait l'utiliser dès l'été 2022. Ça n'a pas été utile. La première fois qu'on l'a utilisée, c'était l'été 2023. On l'a utilisé entre le 1er août et le 20 août à peu près.
Alors on va essayer de revenir un petit peu au départ, à l'initiative. Qui a eu l'initiative et comment ça s'est produit? Et comment vous avez eu cette idée?
Alors, l'idée... Alors, il faut que je décrive un petit peu la situation à Beaumont. C'est une commune de 260 habitants qui dispose de plusieurs ressources, dont une source principale, qui débite vraiment beaucoup d'eau toute l'année. Si vous voulez, c'est entre 200 et 300 mètres cubes à peu près toute l'année. Donc c'est largement suffisant pour la population, même on en prélève vraiment très peu, on en prélève à peu près 45 mètres cubes par jour.
Une population de 260 habitants.
Voilà, c'est ça. Bien sûr, elle baisse comme toutes les sources. Et à partir du moment où la population double, voire triple à Beaumont, c'est là qu'elle est au plus bas. C'est-à-dire, elle tombe... à peu près autour de 70 mètres cubes par jour, alors que nous, on a besoin de distribuer beaucoup plus d'eau. Jusqu'à présent, on arrivait à peu près, avec les autres ressources de la commune, à gérer. Mais ces dernières années, disons, on va dire ces 10 dernières années, ça a été de plus en plus compliqué. Et les élus se sont interrogés, se sont dit, mais toute cette eau qu'on a toute l'année, en fait, l'idéal, ce serait de pouvoir en stocker un petit peu, pour pouvoir soutenir le réseau d'eau pendant cette période de l'année où la source est au plus bas et la population est au plus haut à Beaumont.
C'est-à-dire l'été.
C'est-à-dire l'été. Vraiment les trois premières semaines d'août. Mmh. Et donc ça a été une recherche sur Internet. Et il y a un élu qui a trouvé un système qui était installé à Madagascar et par Thierry Labrosse. Et il a installé ces REPS là. Il en a installé à peu près 60 à 80 et le système a tout de suite interpellé l'élu et il en a parlé au conseil municipal, il en a parlé au maire et le système a paru vraiment très adapté à Beaumont. Mmh. Et voilà, on est rentré en contact avec Thierry Labrosse qui est l'inventeur, le concepteur. Mmh. Il faut dire que c'est un système qui est très ancien, qui est ancestral, la conservation de l'eau dans le sable. Mmh. Et on lui a proposé.
Ouais.
Oui, mmh. Voilà. On lui a proposé de venir à Beaumont et d'étudier pour Beaumont. Ben, est-ce que ce serait possible d'installer une telle nappe phréatique artificielle? Voilà. Alors, il a été enchanté parce que je sais qu'il a essayé dans plusieurs gros groupes qui gèrent l'eau de pouvoir vendre son système. Ça n'a jamais fonctionné et pour lui, c'était une première réalisation en France et en Europe.
Il faut mentionner aussi que Thierry Labrosse, donc le créateur, l'inventeur de ce système, enfin le réinventeur, on va dire, de ce système, a été lauréat du concours L'Épine en 2011 pour cette invention.
Oui, et il a déposé un brevet pour cette invention.
Donc, vous l'avez mise en place. Cette initiative, elle s'inscrit, on l'entend aussi, dans une démarche plus globale de prise en compte de la part de la mairie, alors de votre prédécesseur et puis de vous actuellement, la prise en compte de la gestion de l'eau. Globalement, comment ça fonctionne?
Alors, c'est surtout une initiative qui est très intéressante parce que elle anticipe le fait que, à cause de la crise climatique, clairement, les sources baisse de plus en plus. Et elle nous donne un moyen technique de pouvoir gérer pendant la crise. Ce qui est assez extraordinaire avec ce type de réserve, c'est que l'eau, non seulement elle se conserve pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais en plus elle s'épure parce que le sable et la pouzzolane ont un effet de filtre. Mmh. Voilà. C'est un système qui est enterré, donc très très discret. On pourrait dire un petit peu dans le mouvement de géopoétique de Kenneth White. Et c'est aussi... donc il n'y a pas besoin de permis de construire. C'est un système techniquement à mettre... on le met très facilement en place. On peut l'installer dans différents milieux. Bon, nous, on a fait le choix de mettre dans le milieu naturel. Mais ces réserves, elles peuvent être enterrées sous une route, sous un parking. On peut leur donner la forme qu'on veut, puisque c'est une bâche qui contient le sable ou la pouzzolane. Ce qui est génial aussi, c'est que l'eau se conserve. Il faut savoir que dans un réservoir d'eau classique, l'eau ne peut pas se conserver sans traitement plus de 4 jours d'affilée, si elle n'est pas renouvelée en tout cas. Alors que là, on la conserve des semaines, des mois, sans aucun traitement, et elle sort même plus pure que ce qu'elle était quand on a rempli la réserve. Alors, dès qu'on a eu ce projet d'installation, on a associé tout de suite les services de l'État, l'ARS, qui contrôle la qualité de l'eau. Mmh. Alors, comme on n'avait aucun recul, ça a été, en tout cas, aucun exemple sur la France, ça a été compliqué pour l'ARS de vraiment adhérer au projet tant qu'on n'avait pas de preuves de la potabilité de l'eau. Et ils ont été associés très rapidement, ils ont suivi le projet. En cours de construction, on a commencé à faire des analyses et on a eu l'autorisation de distribuer l'eau dès que la réserve était pleine.
Il y a aussi un autre avantage dont vous n'avez pas parlé, c'est le coût. le coût qui est minime par rapport à j'allais dire des créations qui ne sont même pas équivalentes en termes de qualité, hein, vous l'avez dit, parce que là ça purifie l'eau, vous avez parlé aussi du temps de stockage de cette eau, mais même au-delà de ça, avec tous les bénéfices supplémentaires, c'est une réalisation. Combien ça coûte, par exemple, combien ça...
Alors, pour Beaumont, donc il faut que je vous dise aussi la capacité. Notre réserve, elle contient 600 mètres cubes de pouzzolane qui peuvent, cette pouzzolane, elle peut stocker 300 mètres cubes d'eau. Quand elle est pleine, notre réserve fait 300 mètres cubes. Le projet, donc l'installation totale, nous a coûté 90 000 euros. On a pu avoir 50% de subvention. Il faut savoir que ce montant... Donc, stocker 300 mètres cubes d'eau dans un réservoir classique coûte 2 à 3 fois plus cher que ce type d'installation.
Mmh. Et avec 300 mètres cubes d'eau, on alimente combien de foyers ?
Alors, nous, on a fait le choix de jamais la distribuer pure. Cette nappe phréatique artificielle, elle est installée le long de notre réseau parce qu'elle est alimentée déjà par l'eau potable, enfin l'eau brute en tout cas. Et quand on en a besoin, on soutient le réseau d'eau. C'est-à-dire, on rajoute, cette année, on a rajouté 10 mètres cubes par jour pour soutenir notre distribution d'eau potable. Mmh. Donc elle est mélangée. Après, en effet, il y a quand même une petite station de traitement au chlore, et elle suit exactement le même traitement que l'eau ordinaire qui est utilisée toute l'année.
Mmh. Et alors la suite, qu'est-ce que c'est ? D'abord, est-ce que il y a eu, j'imagine qu'il y a eu une émulation, mais est-ce qu'il y a d'autres maires, d'autres communes ou d'autres communautés de communes qui sont intéressées par ce projet ? Est-ce que vous en avez connaissance ?
Alors, ça a été très médiatisé, même au moment de la construction de cette nappe phréatique. On a eu très rapidement beaucoup, beaucoup de demandes de maires, de gestionnaires, de réseaux d'eau potable. On a eu aussi des entreprises de travaux publics. Les chaînes nationales sont toutes venues faire un reportage. Ça a été assez médiatisé. On a eu énormément de coups de téléphone, de demandes par mail. Et étonnamment, enfin, aujourd'hui, en France, je ne connais pas d'autres projets qui sont en cours de construction ou qui ont le projet de le faire, de collectivités qui ont le projet de le faire. Après, c'est un système... Donc là, je vous l'ai décrit grossièrement. Mmh. C'est plus que ça. Hein. Il y a des drains dans la réserve. Il y a un système aussi pour mesurer visuellement le niveau d'eau. Voilà, il y a tout un tas d'installations. Mais le système est tellement simple et tellement peu cher que c'est tout à fait possible qu'il y ait d'autres réalisations, mais pas sous le brevet de M. Thierry Lamrosse.
Et pour vous, la suite, est-ce que vous imaginez justement doter les différents hameaux de Beaumont de ce système ?
Alors, on n'en a pas l'utilité aujourd'hui. Alors, ce que je voulais rajouter aussi comme intérêt, c'est qu'il n'y a aucune évaporation dans ce type de réserve.
C'est pas une méga bassine, vous êtes en train de nous dire.
Voilà, c'est pas une méga. C'est même pas un réservoir, parce que dans un réservoir, on a déjà de l'évaporation. Donc là, ça fait, il y a vraiment beaucoup d'avantages à ce type de réalisation. Alors, à Beaumont, on a le projet sur un hameau de faire ce type d'installation parce que notre réservoir est très fuyard et qu'il faut le changer. Et on se pose la question, est-ce qu'on fait un réservoir avec une plus grande capacité ou est-ce qu'on choisit de faire une nouvelle nappe phréatique ? Mais pour aller plus loin, je pense que ce type d'installation et la façon dont on le gère à Beaumont pourrait participer à une vraie politique de l'eau. C'est-à-dire, à Beaumont, on a 5 hameaux principaux. Si on construit une réserve comme ça, de 300 mètres cubes pour chaque hameau, on peut imaginer que l'été, quand on a besoin de 80 mètres cubes d'eau, grosso modo, à distribuer sur la commune, eh ben, on n'en prélève que 40 mètres cubes. Et que les autres 40 mètres cubes, on les laisse au milieu naturel. Donc là, on aurait un réel effet sur l'environnement et sur l'impact négatif que peut avoir le prélèvement de la ressource dans le milieu naturel quand la nature souffre le plus.
Mmh. Inscrit durablement. Enfin, c'est une vraie politique qui s'inscrit... qui s'inscrit sur la durée.
Oui, parce que si on arrive à stocker 1500 mètres cubes d'eau, finalement, ces 1500 mètres cubes d'eau sont consommés, enfin pour moitié en tout cas, sont consommés sur la période la plus tendue, et c'est là où on prélèverait le moins dans le milieu naturel. Donc c'est quand même assez vertueux. Et on pourrait imaginer, parce que cette eau, il faut savoir que c'est de l'eau de surface, on la pompe pas dans une nappe phréatique. Mmh. Elle retourne au milieu naturel toute l'année, donc vous voyez, on en consomme vraiment très très peu par rapport à la capacité de la source. Et finalement, elle finit à la mer ou elle finit en évaporation, cette eau, on va dire, grosso modo, quoi. Mmh. Et nous, on arrêterait un petit peu ce phénomène d'évaporation parce qu'on la stockerait l'hiver, donc mettons 1500 mètres cubes, et on pourrait soutenir notre réseau en prélevant le minimum dans le milieu naturel.
Et je posais la question tout à l'heure de savoir si d'autres élus de communes, communautés, etc. étaient intéressés. Mais au niveau local, en Ardèche, il n'y a pas eu de rapprochement, il n'y a pas eu d'autres localités intéressées, non ?
Si. Si,
ce serait formidable, l'Ardèche comme laboratoire alors c'est sans doute pas l'unique solution à tout, mais ça pourrait être quelque chose de très...
Oui. Alors, en effet, c'est pas l'unique solution, ça c'est clair, ça va pas résoudre ce problème énorme d'eau potable. Mais c'est très facilement réplicable et il y a beaucoup de situations où ça conviendrait assez parfaitement. Alors en effet, il y a quand même pas mal d'élus qui sont très tentés et je pense qu'il va y avoir quelques réalisations parce que aussi bien Pascal Vachmitt, qui est le maire de la municipalité précédente, qui est à l'origine de ce projet, que moi, on en parle vraiment beaucoup, beaucoup parce que on pense que c'est une installation d'intérêt général, réellement. Bon, alors, d'intérêt public, normal, puisqu'on fait de la distribution d'eau potable, mais d'intérêt général plus globalement dans une politique de l'eau. Et donc, je pense que ça va peut-être évoluer. Ce que je voulais aussi rajouter par rapport à Beaumont, c'est... on réfléchit pour stocker de l'eau l'hiver, pour pouvoir soutenir notre réseau l'été. Ok, ça c'est clair. Mais par ailleurs, on travaille beaucoup sur l'étanchéité de notre réseau global. Il faut savoir qu'on a 42 km de conduite pour distribuer toute la commune, que les conduites sont anciennes et qu'on fait du renouvellement. C'est beaucoup d'investissement pour une petite commune qui finalement distribue de l'eau toute l'année qu'à 260 habitants.
Vous êtes aidé pour ça ?
Oui, on est, parce que sinon on pourrait pas faire les travaux, en fait. Oui, on est subventionné, j'espère, là, pour les prochains travaux de réfection d'une conduite à 80%. Et on travaille aussi beaucoup avec les habitants sur l'intérêt global de consommer le moins possible d'eau en été. Et je peux vous dire que ça marche très bien parce qu'on voit une baisse de consommation. Les habitants font attention, ils sont sensibles, ils sont déjà convaincus qu'en effet, un des grands enjeux à venir, ça va être l'eau.
Mmh. Et les vacanciers qui viennent sont aussi sensibles à ça ?
Oui, alors on a plus ou moins de facilité pour les contacter, mais je pense que les vacanciers qui viennent dans nos régions reculées sont sensibles quand même à l'environnement. Donc s'ils ont l'information, en effet, ils font attention. Je sais qu'on a un petit camping sur la commune où il y a beaucoup d'informations qui est faite pour que les gens fassent attention à leur consommation. Et c'est pareil dans l'hôtel, dans les chambres d'hôtes, gîtes. Je sais qu'il y a un hôtel qui a supprimé sa piscine justement pour ne pas avoir trop d'impact. On a des personnes qui sont très sensibles, en tout cas, oui.
En tout cas, très belle initiative. Juste pour terminer très rapidement, un dernier mot. Donc, vous étiez à cette cérémonie nationale de remise des prix et de lauréat de la 6e édition du Grand Prix des Mers. Il y avait différentes sections. Donc, vous, c'était environnement, énergie. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui vous ont paru intéressantes et qui vous ont un peu enthousiasmé lors de cette remise des prix?
Oui, c'était très intéressant de voir toute l'imagination et des élus, des communes, de voir aussi que les communes osent finalement. C'est un petit peu ce qu'on a fait à Beaumont. On a osé, même si ça s'était jamais fait en Europe. Et en fait, il y a plein de communes qui osent et qui amènent beaucoup de services à la population, qui sont très attentives à la qualité de vie. Et par exemple, là me vient, il y a un service de conciergerie qui a été mis en place pour les personnes âgées dans une ville qui fait à peu près 10 000 habitants, je crois. Les personnes âgées, elles ont des difficultés, quand elles ont besoin d'un service, je crois pour 5 euros par an, elles sont mises en relation donc soit avec des bénévoles, soit avec des artisans qui viennent régler le problème. Il y a aussi dans une autre catégorie... le lauréat pour un projet Allume ta rue. C'est une ville de 15 000 habitants, je crois, où il n'y a pas du tout... Enfin, l'éclairage public est complètement éteint toute la nuit. Et pour chacun avec son smartphone peut allumer les lampadaires dont il a besoin pour circuler dans la ville. Et c'est, en fait, c'est donc un service à la population, mais aussi un vrai impact environnemental et financier, budgétaire, parce que le coût de cette installation, je crois, est autour de 25 000 euros, alors qu'il y a déjà eu une réduction sur la facture énergétique de 80 000 euros dès la première année.
Super. Mais merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai, c'est très important. On le disait un petit peu hors antenne, il y a énormément d'initiatives qui sont faites. Oui. J'ai parlé justement de ceux qui ne se faisaient pas, des impairs, des manques, mais il y a énormément, et de la part des collectivités, de certains représentants de collectivités ou d'associations, des initiatives qui se font. Et donc c'est très important. Merci.
Oui. Je crois, oui, c'est très important. Je pense que les habitants aussi ont une part importante de responsabilité pour faire remonter aux élus qu'est-ce qui pourrait améliorer leur qualité de vie. Et puis après, les élus, les habitants réfléchissent ensemble pour faire évoluer, pour créer des réalisations. Ouais.
Une vraie collaboration.
Oui, complètement, oui.
Merci beaucoup Agnès Olibert et bravo pour ce prix. Et puis on espère que ça va essaimer un petit peu partout. Merci encore.
Merci Sophie.
Eh bien, vous restez à l'antenne de Fréquence à toi. On dirait une... surtout ne zappez pas. Il y a de la pub. Non, c'est pas vrai. La pub, c'est éventuellement vous qui la faites grâce au Telex qui a lieu à 15h au 03... Non, mais non, je suis revenu dans le Nord, 04 75 93 30 25, ça c'est à 15h. Mais avant, il me semble qu'il y a les jardins suspendus à 13h, juste après cette émission. Donc à 15h, le Telex, 17h, la rediff, je cherche mes petits papiers, peut-être que tu vas m'aider.
À 18h, on aura Solidaire d'abord, 19h, il y aura
Tu danses.
20h, chez Tonton, et à 21h,
Hexagone Jazz. Hexagone Jazz, super. Et puis... de la bonne musique tout au long de la journée et de la nuit. Ça ne s'arrête jamais, Fréquence à toi, c'est formidable. Allez, nous, on se retrouve demain pour une onde curieuse qui aura trait à... je ne sais pas. À demain.